Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large en direct du 46e Festival du cinéma américain de Deauville avec Sylvie Piala, Bruno Podalides, Bruno Bard, Jonathan Nociter et Sophie-Catherine Gallet.
Un jour, j'étais avec un producteur américain, le grand patron de la Warner, il y a une trentaine d'années, et il m'a dit que l'autre, je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre le cinéma français et le cinéma américain. Nous, on raconte des histoires simples avec de très gros moyens. Et vous, vous racontez des histoires très compliquées avec de petits moyens.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Quand Claude Lelouch parle de cinéma américain, pas d'erreur, on est bien à Deauville, en direct des salons de l'Hôtel Barrière, le Normandie, au cœur du Festival du cinéma américain, 46e du nom, là où depuis 1975 se projettent les rêves et les angoisses d'une Amérique particulièrement tourmentée cette année. Un festival très particulier aussi cette année, non seulement parce qu'il a réussi à se maintenir malgré la pandémie de coronavirus, avec des stars qui arpentent massivement le tapis rouge et des films qui se projettent devant une assistance malheureusement réduite pour respecter gestes barrières et autres distanciations physiques, non seulement en raison de l'absence sur place des Américains, mais leurs films sont là pour eux. Festival très particulier parce que cette année, c'est tout le cinéma qui est accueilli à Deauville, qui a invité son aîné et cousin de la Côte d'Azur, le Festival de Cannes, empêché, comme on le sait, cette année, à présenter une dizaine des films qui ont malgré tout constitué sa sélection officielle. Un festival très particulier, donc qui rappelle fort utilement qu'un festival, c'est pas seulement une sélection, c'est l'expérience collective de la découverte sur grand écran, c'est essentiel, d'une image du monde. Jamais nous n'avons eu autant besoin du cinéma. C'était le cri du cœur hier soir pour inaugurer les festivités de Roselyne Bachelot, et ça faisait bien longtemps qu'un ministre de la Culture n'était pas venu inaugurer le festival. Dans Plan Large aujourd'hui, deux membres du jury, présidé par Vanessa Paradis, qui aura la lourde tâche de départager les 15 films en compétition, la productrice Sylvie Piala et le cinéaste Bruno Podalides. À leur côté, le directeur artistique et maître d'œuvre du festival depuis 25 ans, Bruno Bard, et puis un cinéaste américain tout de même qui a pu trouver, lui, le chemin des planches deauvillaises, et oui, parce qu'il vit en Italie, c'est Jonathan Nociter, l'auteur de Mondovino, en compétition cette année avec une fable post-apocalyptique visionnaire, Last Words, qui, ce film, lui aussi, nous rappelle combien le cinéma, plus que jamais, nous est indispensable. En fin d'émission, Sophie-Catherine Gallet nous racontera un autre festival, celui de Bologne, le bien nommé Il Cinema Ritrovato, le cinéma retrouvé, mais pour l'heure, on fait un petit tour dans l'espace et avec des canards, mais oui.
Space Ducks, fighting all the evil, all the creepy people in a war in outer space. Space Ducks, loving every respect. War in Austin, Texas. Space Duck, it's the carrion race. It's the death of the human race. It's a war in outer space. Space Duck,
Space Ducks, les canards de l'espace de Daniel Johnston sont dans Effacer l'historique de Kervern et de Lépine. Vous en êtes l'heureuse productrice, Sylvie Piala. Le film est sorti la semaine dernière face au mastodonte palindromesque Tenet de Christopher Nolan. Comme quoi, n'en déplaise à Claude Lelouch, les Américains racontent aussi parfois des histoires très très compliquées avec beaucoup beaucoup d'argent. C'était Tenet, le seul blockbuster à sortir depuis le début de l'épidémie. Il a fait un très gros démarrage en salle, le meilleur de l'année, avec près de 900 150 000 spectateurs en une semaine, eh bien, Effacer l'historique fait lui aussi un très très beau score. Sylvie Piala, plus de 250 000 spectateurs en une semaine. Alors ça y est, les Français retournent masqués dans les salles de cinéma. Vous êtes contente, vous êtes rassurée, Sylvie Piala?
Bah, je suis très heureuse. Je rappelle que quand on a décidé de sortir à cette date, Tenet ne sortait pas encore à cette date et qu'on a été très heureux d'apprendre, alors que souvent on n'est pas très heureux d'apprendre qu'un gros blockbuster sort en face de vous. Mais cette fois-ci, oui, ça avait l'air d'une vraie rentrée et grâce à eux, et il y a les Nouveaux Mutants aussi. Enfin bon, c'était une vraie rentrée. Voilà, il y avait une offre, il y a eu une belle offre pendant l'été, je le répète, je l'ai déjà dit dans un journal. Mais c'est vrai que là, il y avait un air de rentrée et que les spectateurs ont été en masse au cinéma. Donc c'est joyeux de constater que c'était un manque. Et maintenant, ce qui serait joyeux, c'est que ça, voilà, c'est que ça demeure, parce que c'est vrai, la rentrée, etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont empêchantes. Mais oui, je suis joyeuse.
Et comme quoi, le cinéma français et le cinéma américain peuvent marcher la main dans la main. On le voit ici à Deauville. Vous financez, Sylvie Piala, depuis 15 ans, des films d'auteurs, pas des moindres. On vous doit, faut-il le rappeler, le magnifique Timbuktu d'Abderrahmane Sissako. C'est vous la productrice d'Alain Guiraudy, depuis Le Roi de l'Évasion, de Guillaume Nicloux, depuis Holiday. Et tant d'autres, je crois que vous avez travaillé avec un cinéaste américain. Lodge Kerrigan.
Oui, le film est sur une étagère dans mon bureau, mais ça a été une expérience formidable humainement et moins formidable, voilà. Mais enfin bon, je pense que j'ai pas été la seule. Je savais, j'étais au courant qu'il y avait quelque chose de voilà qui n'allait pas au bout. Mais on a fait le film, il était à Cannes et puis il est rentré, voilà. Mais j'espère qu'un jour, voilà, quelqu'un Lodge lui-même, j'espère. Voilà, on arrivera, mais c'est
appel au distributeur qui nous écoute.
Non, c'est vraiment à lui, pardon.
Et à Lodge Kerrigan.
Voilà, c'est juste lui, voilà.
Je ne sais pas si Lodge Kerrigan nous écoute, mais si ça se dénoue cette affaire, on saura que si. C'est quoi votre rapport, vous, au cinéma américain? Vous aviez répondu à un questionnaire de Libération qui s'appelle Séance Tenante, et alors vous ne parliez que de Charlie Chaplin, de votre amour pour Orson Welles, pour Barbara Loden.
Oui.
Je
garde cet amour.
C'était formateur pour vous?
Formateur, je sais pas, mais je sais que voilà, moi, je à l'époque, il y avait les Chaplin passaient régulièrement, et moi, je sais qu'on m'emmenait tous les dimanches en voir un, et c'était magique, ça reste. Je fais la même chose avec mon fils, et je peux voilà, avec des adultes aussi. Mais oui, bien sûr, formateur, je sais pas, c'est de baigner. Enfin, moi, je suis pas un rat de cinémathèque du tout, j'ai jamais été, même si j'aime aller à la cinémathèque, mais je dirais, je suis plus cinéphage, voilà. Donc j'ai évidemment été bercé par le cinéma américain, mais aussi beaucoup par le cinéma français, beaucoup par le cinéma italien. Disons que c'est un rapport très amical, très admiratif, et voilà, c'est de l'amour.
Bruno Podalides, même amour. On va voir ici votre nouveau film, Les Deux Alfred. Hein, on attendra janvier prochain pour le voir en salle et puis peut-être pour en reparler avec vous dans Plan Large. Vous, quand vous étiez petit, vous faisiez beaucoup de films. Vous l'avez beaucoup raconté avec votre frère Denis Podalides. Et vous faisiez des westerns.
Oui, on les reproduisait instantanément. Dès qu'on les avait vus, je devenais John Wayne ou Denis James Stewart. Et on était dans le mimétisme absolu, hein, vraiment... à reproduire les dialogues. On était émus parfois de rejouer certaines scènes. Denis et moi, ça nous arrivait d'avoir les larmes aux yeux. C'est le canon de Navarone, je crois. Il y avait des morts dans ce film, et on jouait dans un blocos, nos voix résonnaient avec l'écho, et du coup, on avait été cueillis, on avait refait le film bouleversé.
La position de juré, question pour vous deux, Sylvie Piala et Bruno Podalides, c'est une position confortable, privilégiée, parce que vous allez découvrir les films dans les meilleures conditions possibles, mais est-ce que le fait de devoir juger des films vous réjouit, vous angoisse, vous pose problème
Non, moi je suis très fier déjà d'avoir été choisi, je remercie Bruno qui est là,
Bruno
pour qu'il me reprenne plus tard, dans 10 ans. Mais non, ce que j'aime beaucoup, c'est l'immersion et l'engloutissement d'un grand nombre de films. On est obligé de constater que en tous les cas c'est mon cas, peut-être pas d'autres, mais plus on travaille dans le cinéma, plus on produit, plus et moins on a le temps d'aller vraiment faire 2, 3, 4 films par semaine, ce qu'on faisait avant. Et vraiment, un festival, c'est vraiment ça, c'est la possibilité de manger du cinéma. Et c'est comme ça aussi c'est comme ça qu'on l'aime encore plus, parce que il vous saute aux yeux, tout vous saute aux yeux. Le bon, le moins bon, le formidable. Et tandis quand on fait une sortie, Mais on attend quelque chose de cette sortie. Et donc, on est dans l'engouement et dans la déception, on est toujours trop. Et on a moins ce... Et quand on envoie comme ça une 15 en 8 jours, il y a quelque chose de, voilà, qui se remet en place et surtout qui donne très envie de continuer.
Oui, Nopo Dalides.
Ce que j'apprécie beaucoup, c'est de voir un film avec un regard absolument neuf. C'est-à-dire, personne nous en a parlé avant. Il n'y a pas d'affiche, pas de bande-annonce, pas d'interview, pas de critique. Et du coup, je regarde même pas le résumé, je sais même pas le titre. Je suis complètement... Voilà, regarder un film sans aucun a priori, c'est très agréable.
Le carnaval des animaux de Saint-Saëns se mélange au thème composé cette année pour le festival de Deauville par Steve Naïve, compositeur invité, hein, comme chaque année, en partenariat avec la SACEM. D'ailleurs, il avait rendu un très bel hommage hier soir sur scène à New Morricone. Eh bien, oui, les planches de Deauville ont un drôle d'air de croisette cette année. Bruno Bard, je l'ai dit, vous êtes le directeur artistique du festival de Deauville depuis 25 ans. Et cette année, ça a été beaucoup dit hier soir à l'inauguration, ce n'est pas le festival du cinéma américain, c'est le festival du cinéma tout court. Ça a toujours été un festival de cinéma, hein. Tout court tout de même ce festival de Deauville. Pourquoi est-ce que ça a été évident pour vous d'inviter le festival de Cannes à présenter une dizaine de films cette année?
D'abord, j'aime pas les limites. Je pense que le cinéma est un art qui s'anoblit hors frontières. Et j'ai eu l'occasion là d'être ce que je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui accueille, quelqu'un qui veut être généreux. On peut pas travailler dans le cinéma si on n'est pas comme ça. Et quand j'ai senti que Cannes était menacé, et que même peut-être Deauville l'était, et j'ai appelé Thierry Frémaux et j'ai dit voilà, vous venez à Cannes, vous venez comme vous voulez, avec des films,
sans
films.
Vous venez à Cannes, vous venez de dire.
Oui, pourquoi?
Ben, vous venez à Deauville.
Non, parce que Cannes est devenu Deauville. Parce que les planches rejoignent la croisette et c'est bien ça. Non, j'ai voulu ça, j'ai voulu accueillir ce festival, j'ai voulu que les films circulent. J'ai toujours souhaité ça depuis très longtemps. J'ai toujours pensé que le cinéma, notre rôle à nous, c'était la circulation des œuvres à travers le verbe et à travers les films. Les films, c'est évident, c'est les montrer. Le verbe, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est la discussion. C'est pour ça que j'avais dit, de toute façon, Deauville existera ou n'existera pas, mais il ne sera jamais numérique. Ça, c'est une chose. Et quand j'ai appelé Thierry, il était très touché parce que c'était au moment où le Festival de Cannes allait peut-être être décalé au mois de juin. Et je lui ai dit, vous venez comme vous voulez à Deauville. Et il m'a rappelé après, il m'a dit, on va faire une sélection. Et j'ai dit, bah, dans cette sélection, moi, je vais choisir 10 films. Et du coup, c'est vrai que on l'a bien vu hier soir. Hier soir était un grand moment de cinéma. C'était un symbole. Symbole en grec, c'est symboleim, c'est la réunion. On était réunis autour du cinéma. Et c'est vrai que d'avoir des gens sur scène qui ont la même exigence du cinéma dans un monde qui ne l'a pas ou qui ne l'a plus, je veux dire, c'est notre rôle. Il n'y a aucun grand cinéaste dans le monde, quasiment aucun, qui n'a pas été découvert dans un festival. Donc les festivals servent à la fois à ramener les gens dans les salles et à la fois à faire découvrir, à transmettre. Moi, je ne crois pas qu'on est obligé de balancer du Franck Dubosc tout le temps. Je pense que l'élitisme pour tous, c'est possible. Et c'est ça notre rôle. Et je partage cette foi et cette passion avec Thierry et avec Pierre. Donc on était très bien ensemble hier soir.
Et vous aviez l'air très heureux d'être tous ensemble, effectivement. Alors, ces 15 films qu'on va voir en compétition cette année, hein, en l'espace d'une dizaine de jours, il y en a 8 qui sont signés par des réalisatrices, comme quoi c'est possible dans un festival. Et qu'est-ce qu'ils nous disent de l'Amérique d'aujourd'hui, vous qui voyez en plus beaucoup de films pour sélectionner chaque année ceux de la compétition? Je crois que vous avez dit quelque part qu'il n'y avait pas de cinéma trumpien, et que c'est en fait un peu le grand absent, le hors-champ de tous ces films qu'on voit.
Mais c'est-à-dire que d'abord, Trump est l'amant de la laideur. Donc, fatalement, je veux dire, il ne peut pas inspirer les gens ou il ne peut les inspirer qu'en réaction. Et finalement, un film qui est beau, qui est intelligent, qui est généreux, qui dit des choses vraies, un film, comme dirait Truffaut, qui a un point de vue sur le cinéma ou qui a un point de vue sur le monde, est fatalement un film anti-Trump. Donc, tout le cinéma qui est présenté ici, dans la mesure où ce sont des films, encore une fois, qui traduisent l'art rendant l'homme meilleur, je veux dire, Trump rendant l'homme pire, non, il y a, fatalement, tous les films sont politiques, au sens où c'est le bien de la cité qui est montré. Et l'Amérique montre des films de femmes, mais pas seulement réalisés par des femmes, parce que l'année dernière, il y avait aussi 8 femmes, et il y a 2 ans, il y avait aussi 8 films de femmes. Jane Campion est un cinéaste immense, pas parce que c'est une femme. Et donc, ce que montrent les films aujourd'hui, y compris des films d'hommes, notamment, par exemple, le film de Jonathan, montre que les héroïnes de la vie, celles qui font avancer le monde, ce sont des femmes. Et ça, on le sait depuis très longtemps. Et l'Amérique le sait, puisque en 2010, il y a eu 52 films produits et réalisés par des femmes américaines. En 2019, il y en a 80. Et il y en aura de plus en plus. Et c'est la marche. Mais vous savez, moi, quand je vois un film, je regarde pas le générique avant. Je fais comme dit Bruno, je suis vierge. Je veux être vierge devant le film. Donc je regarde le film et je vois qui l'a réalisé. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de premiers films à Deauville. On veut pas découvrir le talent, c'est très prétentieux de dire ça. On veut juste l'accompagner pour lui donner sa place. Et sa place est nécessaire dans le monde d'aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on voit au-delà de donc l'absence de la leader trumpienne, des grands débats qui agitent actuellement l'Amérique? C'était assez frappant donc qu'on ait vu en ouverture un film Minari hier soir qui représentait une communauté qu'on voit peu au cinéma américain, ou alors ce sont des films qui nous n'arrivent pas jusqu'à nous, la communauté coréenne en plus en Arkansas, donc vraiment quelque chose qui nous semble absolument un raccord impossible. Qu'est-ce qu'on voit de cette Amérique d'aujourd'hui?
Mais je crois que ce qu'on voit, c'est la nécessité de l'autre. C'est-à-dire que rien ne peut se faire seul, que ce soit des communautés, que ce soit des parents, des enfants, des différences. Quand je parlais hier, je parlais de, par exemple, de la sexualité, de l'incertitude. Il y a une quête effrénée. Et finalement, cette quête est la quête de l'être. Et c'est ça qu'on retrouve dans tout le cinéma. Et ce n'est pas rébarbatif, parce que finalement, l'aventure la plus intéressante reste l'aventure humaine, si cette humanité prend la nature en compte. Et on voit ça dans le cinéma américain. Et pas seulement cette année. On le voit depuis quelques années. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les systèmes politiques et économiques ne répondent pas à la nature même de l'être et à son individualité, eh bien, il faut bien qu'ils la recherchent. Et c'est la fonction de l'art, de la littérature, de la peinture, de la musique, ou du cinéma, ou du théâtre, ou de la sculpture. Et donc, c'est ça que nous essayons de découvrir et de trouver à Deauville.
Mais c'est ce qu'on va voir cette année. Merci Bruno Bard, merci Sylvie Piala et Bruno Podalydès. On vous rend à vos obligations festivalières, d'autant que, et on voudrait pas vous influencer, nous recevons donc maintenant dans Plan Large un cinéaste en compétition, un Américain, donc, et pas des moindres, Jonathan Nociter, qu'on avait découvert ici à Deauville. C'était en 1997, où il avait reçu le Grand Prix pour Sunday.
I'll tell you what. Listen to this. Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned, a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at 1,000,000 miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way.
Vous écoutez France Culture, Plan Large en direct de l'hôtel Barrière, le Normandie, Deauville, pour la 46e édition du Festival du cinéma américain et du cinéma tout court, donc cette année. Bonjour Jonathan Nociter.
Bonjour.
On dira tout à l'heure ce que les Monty Python et cette chanson sur la place de l'homme dans l'univers qu'on entendrait dans le sens de la vie viennent faire dans cette émission. Last Words, votre nouveau film, est en compétition, je l'ai dit, cette année à Deauville. Il est également dans la sélection officielle Cannes 2020, donc vous êtes ici à double titre, et alors, faut-il le rappeler, vous êtes l'auteur de ce grand film à très très grand succès dans le monde entier qui était Mondovino, et puis surtout on est ravis d'avoir de vos nouvelles, puisque la dernière fois qu'on a vu un film, un de vos films, c'était il y a 6 ans, en 2014, avec Résistance naturelle, qui faisait le point 10 ans après Mondovino, qui dressait le portrait de quelques agriculteurs italiens en résistance, comme l'indique son titre, face à la tyrannie des marchés, entre autres. Et puis si on n'a pas eu de vos nouvelles depuis si longtemps, Jonathan Nociter, c'est parce que vous êtes vous-même devenu un de ces agriculteurs qui vous auriez pu filmer à cette époque.
Qu'est-ce qui s'est passé ? J'aurais pas la prétention de dire que je suis un agriculteur comme eux, parce que je suis débutant. Mais oui, c'est vrai. Bon, j'ai écrit un livre aussi en attendant, et puis j'ai mis beaucoup de temps à écrire le scénario de ce film. Mais oui, ma vie est dédiée maintenant à l'agriculture.
En Italie.
Je travaille avec un spécialiste en permaculture sur le lac de Bolsena, et on récupère des semences de variétés anciennes de légumes. Et on fait une espèce de musée de sauvegarde d'un côté, et de production de plantes, de légumes dans la pépinière, et de légumes elles-mêmes. Et c'est ma vie. Donc j'ai finalement des mains qui servent à quelque chose. Et j'en suis assez fier. Parce qu'au moins mes mains commencent à devenir quelque chose de concrète.
Vous faites un lien entre ce métier d'agriculteur et celui de cinéaste, hein, entre faire pousser des légumes, récolter des graines et mûrir un film, hein.
Écoute, c'est quelque chose d'assez formidable. Quand j'ai rencontré mon associé Massimiliano Petrini, qui est autochtone de Bolsena, donc l'épicentre de la culture étrusque, et là on le sent. On travaille sur 4 hectares, et quand j'ai commencé à voir comment Max, comme il s'appelle, comment il travaille la construction d'un potager, j'avais l'impression de voir Cassavette à l'œuvre, c'est-à-dire quelqu'un qui a tous les instincts de l'écoute de l'autre, qui a plus qu'une graine de folie, même une espèce de boule de neige de folie, qui suit dans l'énergie possible que les autres produisent, et il est au milieu, à essayer de les faire éclater pour le bonheur des autres. Alors là, j'ai dit, en fait, malgré la stupidité de mes 30 ans de cinéma, peut-être que ça sert à quelque chose, je sais où m'insérer là-dedans, et on s'éclate. Il y a tout pour moi dans l'acte d'agriculture, toute la beauté esthétique possible du cinéma, mais sans la prétention et les bullshit, excusez-moi, mais il faut le dire, il y a un côté un peu arte povera franciscain qui enlève tout ce qui m'a toujours dégoûté dans le monde du cinéma, qui a enlevé la vraie poésie. Et je me retrouve.
Est-ce qu'à l'inverse, cette expérience a changé votre manière de faire du cinéma?
Certainement. C'est-à-dire que je vais arrêter. Ce film Last Words, certainement est l'expression du travail des dernières années dans le potager, dans la pépinière. Il y a même des scènes avec Alma Rohrwacher, cette actrice, la Meryl Streep italienne, qui elle-même est fille d'apiculteur et
sa sœur Alice Rohrwacher l'a raconté dans Les Merveilles.
Rohrwacher, qui voilà. Est l'un des plus grands cinéastes à mon avis de notre époque. Et je pense qu'il y a un rapport avec les comédiens dans le film, avec Nick Nolte, avec Charles Rampling, avec Stellan Skarsgård, avec Alba, et aussi avec le jeune protagoniste qui est un réfugié de la Gambie, 18 ans, à l'époque qu'on a tourné, qui a fait le parcours terrifiant de la fin du monde pour arriver en Italie. Et certainement, le rapport que j'ai avec eux, la façon dont on a travaillé, est un reflet de cette nouvelle vie d'agriculture, et moi j'en suis ravi.
Do you understand what this is? Do you know the opportunity here? Damn it, do you understand that? This stock, this is an unwritten tablet. This is particles that hang magically in the air. And it's a last chance to leave a trace, a living trace, a testimony of us. Of us. It's a last chance to leave a living trace of man as he once was.
Nous sommes en 2086. Dans ce film, la Terre a été ravagée par le réchauffement climatique. L'humanité a quasiment totalement disparu à cause d'un virus qui atteint les voies respiratoires. Tiens donc, le dernier homme sur Terre, vous l'avez dit, il est noir, il est africain et il est cinéaste. Alors, on s'est fait la réflexion que depuis le début de la pandémie de coronavirus, quand on va au cinéma, il y a quand même toujours un décalage très troublant entre ce qu'on voit à l'écran, ce que font les personnages. Ils peuvent se toucher, ils peuvent s'embrasser, ils peuvent ne respecter aucun geste barrière, comme on dit, aucune distanciation physique, heureusement. Et votre film, Jonathan Nociter, Last Words, Mais c'est sans doute le premier à nous parler de ce que nous sommes en train de vivre. Alors évidemment, c'était pas prémédité. Ça faisait très longtemps que vous en aviez le projet. Comment vous est venu le désir d'adapter ce livre de Santiago Amigorena, mes derniers mots? Je crois que vous avez lu avant même qu'il soit publié. Il est sorti en 2015 chez Gallimard.
Je l'ai lu en fait en 2014 et c'est plus qu'un roman, c'est une poésie en prose. Pour moi, c'est le plus beau livre de tous les beaux livres de Santiago. C'est celui où il a réussi à raconter avec une lucidité extraordinaire la réalité d'un moment d'extinction probablement de l'espèce humaine, mais au lieu de travailler la peur, ce qui est pour moi vraiment le mécanisme de la stupidité, de la barbarie, il a travaillé son amour pour la littérature. Parce que pour Santiago, le mot, les paroles, est une chose sacrée. Et quand je lisais le livre, j'étais en larmes. Je trouve qu'il y a une beauté extraordinaire là-dedans. Et j'ai compris aussi que pour Santiago, ce qui peut sauver la barbarie de l'homme, c'est la littérature. Pour moi, c'est le cinéma. Au fond, c'est la même chose. Ça n'a pas d'importance. C'est l'acte de chercher à être un peu moins dégueulasse de ce qui est dans notre nature et de chercher la tendresse et des liens dans un moment de peur terrifiante, d'abdication de d'autorité sur soi et donc du coup j'ai compris que dans le livre de Santiago, qui est un acte d'amour envers la littérature, moi, je pourrais faire quelque chose pour le cinéma, qui pour moi est une chose sacrée. Aller au cinéma, être ensemble, même à deux places, je trouve ça triste parce que je suis un peu végétarien, donc j'aime bien le contact humain, mais être ensemble, au noir, rêver ensemble, devant quelque chose qui nous renvoie peut-être un reflet de qui nous sommes, mais aussi un moment de fantaisie, d'imaginer qu'on peut être encore mieux, encore moins mauvais. Je pense que ça, pour moi, c'est comme pour d'autres qui vont à l'église. Et donc, il est parti de là.
Mais c'est une bonne définition du cinéma, entre autres, que donne Nick Nolte dans cet extrait. Il faut rappeler qu'ils viennent de fabriquer de la pellicule avec des produits chimiques. Vous rappelez que le cinéma, avant le numérique, c'était de la chimie, puis c'était de la mécanique. Ils vont fabriquer une caméra, un projecteur. Ce que vient de dire Nick Nolte dans l'extrait qu'on a entendu, c'est que voilà, ça sera la dernière chance de laisser une trace, un témoignage de nous, de l'homme, une trace vivante de l'homme. Et ça serait ça une définition du cinéma pour vous?
Je pense que le cinéma, comme l'agriculture d'ailleurs, et la recherche de ce qui peut nous alimenter au sens le plus profond. Et je pense qu'on vit maintenant dans un paysage, même avant le Covid. Le Covid est juste l'expression plus grotesque déjà de notre incapacité de se regarder dans les yeux, de se donner la main vraiment, de vivre dans le présent pleinement. Donc le Covid est une épiphénomène. Et hélas, à mon avis, c'est l'épiphénomène qui va se répéter à outrance. Mais oui, je pense que là, il y a quelque chose de magique. Et c'est Primo Levi qui a dit « Raconter les douleurs, c'est déjà les dépasser ». Et c'est pour ça que pour moi, même dire que le film est post-apocalyptique, bon, ça raconte les derniers êtres humains sur Terre, mais pour moi, c'est un film utopique et pas dystopique. C'est une recherche de la tendresse possible, même quand on est vraiment devant la peur la plus terrifiante. Comment est-ce qu'on peut chercher quelque chose qui nous rend un peu moins stupides, un peu moins dégueulasses l'un avec l'autre, et qui amène la beauté inattendue? Et faire le film avec des comédiens, avec des techniciens, on a tous été payés le même salaire, on a cherché quelque chose, une espèce de convivialité et fraternité. Ça n'a pas toujours marché, comme tous les utopies. Il n'y a pas de miracle, mais juste la recherche, ça m'a semblé pas une mauvaise chose à essayer, et je pense que quelque part ça se transmet à l'écran.
Thank you.
Scène fameuse des voyages de Sullivan de Preston Sturges en 1941. On en avait parlé de Preston Sturges dans Plan Large, c'était il y a 3 ans. Dans ce film, il y a un réalisateur de comédie à succès qui lui a à tout prix tourné un film social sur les laissés pour compte de l'Amérique avant de réaliser au détour d'une projection de dessin animé de Mickey, c'est ce qu'on entend, dans une prison où l'ont amené les péripéties du film, que ce que veut le public avant tout, c'est peut-être passer un bon moment ensemble. Et c'est surtout le ensemble qui est important. C'est évidemment une mise en abîme dans votre film, Jonathan Nociter, puisque ces films, il y en a beaucoup de l'histoire du cinéma qui viennent ponctuer le vôtre parce qu'ils sont regardés par des gens. Et ces films, ils viennent pas de n'importe où, ils viennent de la cinémathèque de Bologne, dans les tréfonds de laquelle est terré le personnage joué par Nick Nolte. Il se trouve que la cinémathèque de Bologne était déjà intervenue dans un de vos films, puisque Gianluca Farinelli, si je me souviens bien, dans Résistance naturelle, venait discuter avec ses agriculteurs. Il y a quelque chose de la mémoire du monde dans votre film, y compris des ruines antiques, puisque vous avez tourné à Paestum à un moment, ce lieu magnifique qu'il faut vraiment visiter quand on va à Pompéi, c'est à peine plus loin. Pourquoi est-ce que vous avez voulu rendre cet hommage à cette mémoire du cinéma?
Parce que je pense exactement le moment où on a compris, et j'espère qu'on a compris, en France comme en Italie où j'habite, comme au Brésil, je suis moitié brésilien, comme aux États-Unis, où je suis sur le point de jeter mon passeport dans le Tevere, parce que j'habite un peu à Rome aussi. C'est le moment de se rendre compte que la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que on a systématiquement, criminellement, abandonné le soutien à la santé publique, à l'éducation et à la culture. Ce sont les trois colonnes qui ont été systématiquement détruites par tous les gouvernements au monde, qui sont au service, évidemment, pas des citoyens, mais des multinationales, et c'est pas des théories de conspiration. Si on se rend pas compte de ça, c'est que vraiment l'extinction de l'espèce humaine, ça sera la semaine prochaine et pas dans 60 ans. Alors, quand on détruit ces trois sœurs, parce que je pense que la santé, l'éducation et la culture sont trois sœurs, bah c'est évident que on est démuni de tout et on va se faire attaquer par n'importe quel virus de n'importe quelle manière. Et s'il y a des fascistes aujourd'hui, donc étant moitié brésilien, Bolsonaro, moitié américain, Trump, je vis et avec l'Italie menacée constamment par Salvini, c'est le trio des fascistes déclarés. Et c'est que les déclarer. Alors là, on comprend bien que la culture, si on continue à le marginaliser, et en France, vous avez de la chance, vous avez raison de vous plaindre, parce que c'est pas beau non plus ce qui se passe, mais vous êtes mais mille fois plus privilégiés. Déjà qu'il y a France Culture comme radio importante, ça n'existe pas dans les autres pays. Donc, dans les autres pays, on est déjà tombé dans une barbarie presque totale. Vous avez encore quelques lueurs d'espoir, mais si on crie pas avec toute urgence que la culture est au centre de l'activité humaine, que ce n'est pas un petit divertissement secondaire, c'est essentiel pour la survie de l'espèce humaine, comme l'agriculture saine et pas chimique. Alors, si on fait pas ça, si on hurle pas tous ensemble, mais en hurlant, en faisant la fête, c'est un peu la proposition du film.
Et la fête est là, puisque vraiment les gens se réjouissent après une première, un sentiment de peur qu'il peut y avoir, d'étonnement, parce qu'ils redécouvrent le cinéma dans ce film, comme les premiers spectateurs des films Lumière croyaient qu'un train leur fonçait dessus. Là, ils croient qu'il y a des animaux pour de vrai. Et c'est ça qui est aussi très émouvant dans votre film, c'est que vous réinventez le cinéma d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en faisant fabriquer cette caméra, en faisant fabriquer cet appareil de projection, vous retrouvez le geste premier des frères Lumière, qui était une caméra, qui était un projecteur. Vous avez tourné avec une vraie caméra Lumière, je me suis posé la question à un moment.
Ça aurait été génial. En fait, ce qui était très beau, c'est en travaillant avec le Cinétaque di Bologna, mais aussi avec la Cinétaque française, on a fait beaucoup de recherches sur la construction des premières caméras. Comment est-ce qu'on, quand on se retrouve sans la technologie actuelle, comment peut-on témoigner audiovisuellement de ce qui se passe autour de nous? Comment on peut fêter ce qu'il y a de beau? Et donc la construction de la caméra, on l'a beaucoup recherché. Aussi la construction d'une pellicule. Et en fait, la table qu'on voit et l'image... En fait, il y a un très grand artisan, Matteo Maturo, en Italie, qui a construit la table, qui est à l'image de la table Kodak de 1916. Le projecteur qu'on voit dans le film est un vrai projecteur qui marche. Et qui se trouve maintenant, il a été acheté par le Cinétaque di Bologna. Bizarrement, j'ai décidé de filmer en numérique, parce qu'en fait, pour arriver à une qualité de pellicule aujourd'hui, je pense que c'est mieux de passer par la pellicule en travaillant avec beaucoup de technologie. Donc c'est une ironie, peut-être une hypocrisie, mais la pellicule aujourd'hui est réduite, hélas, à quelque chose qui ne le ressemble pas dans son expression historique, et avec de très vieux objectifs, à travers le numérique, on peut arriver à une texture picturale qui est plus proche de l'histoire de 35 mm. Mais au fond, tous les gestes sont là pour essayer de retrouver la fête du cinéma.
Rassurez-nous, vous resterez festif dans le cinéma, Jonathan Nociter. Last Words, ce n'est pas le dernier film.
Écoutez, ça serait prétentieux de le dire, mais je suis tellement pris par cet acte que je constate en travaillant la terre à côté d'agriculteurs, j'ai l'impression d'être aux barricades, que là, toutes les pires nouvelles du réchauffement climatique, on les reçoit quotidiennement. Donc il y a cette sensation d'engagement énorme, mais aussi de réponses joyeuses. Et c'est pour ça aussi, demain, à Deauville, après la projection, on va se réunir avec Philippe Desbros, avec une bergère qui travaille avec des agneaux de présalés, avec Gilles-Éric Serralini, avec des gens qui essaient d'agir aujourd'hui pour empêcher que le sort raconté par le film ne se passe pas.
Savoir pourquoi il y a des gens qui restent à Paris, à Paris, tout ce qui fait si chaud, moi doux, mais c'est merveilleux le moi doux, et je ne connais rien de plus beau qu'un dimanche près de l'eau. Aimez-vous les moules marinières, la friture des petits restaurants? Aimez-vous voir sur la rivière glisser doucement les chalands, sur la Seine ou l'Oise légère, ou bien sur la Marne à Nogent? Aimez-vous les moules marinières arrosées d'un litre de vin blanc?
Des moules marinières arrosées d'un litre de vin blanc, on en trouve aussi d'excellentes à Deauville. C'est le générique final de votre film. Merci Jonathan Nociter. Last Words sortira en salle le 21 octobre, mais on peut donc déjà le voir en compétition au Festival du cinéma américain de Deauville, qui se poursuit jusqu'au 13 septembre. Lundi sur France Culture à midi, Festival de Deauville encore, Olivia Gesbert recevra dans la grande table la productrice et distributrice Michelle Halberstadt et l'écrivain Santiago Amigorena, dont le livre, dont donc, est à l'origine de Last Words. Pour en savoir plus sur l'histoire de ce festival, sur la situation du cinéma indépendant américain, on peut voir ici dans la section Les Docs de l'Oncle Sam, le documentaire de Daphné Bywire, dont sort la phrase de Claude Lelouch qu'on a entendu en exergue de cette émission, Deauville et le rêve américain. Et puis pour ceux d'entre vous qui rateront la magnifique rétrospective Kirk Douglas ici au festival, Kirk Douglas qui est littéralement la tête d'affiche de cette 46e édition, on vous renvoie évidemment au plan large que nous avions consacré à la star au moment de sa disparition. C'était le 8 février dernier, mais aussi à l'apparition en DVD et en Blu-ray de la version restaurée du Champion de Mark Robson, le film qui en 1949 avait créé sa persona de dur à cuire dans ce rôle de boxeur qui avait fait de lui une star. Et puis enfin, si vous êtes encore en mal de cinéma américain, ne ratez pas la Cinémathèque française jusqu'au 12 octobre la rétrospective Don Siegel, l'auteur de L'Invasion, des profanateurs de sépultures et de l'inspecteur Harry, un de ses chaînons manquants entre le Hollywood classique et le nouvel Hollywood. Vous écoutez France Culture, c'est Plan Large en direct de l'hôtel Barrière Le Normandie, Deauville, et il est temps d'ouvrir le journal du cinéma.
Pourquoi t'es devenue flic, toi? Me dis pas que c'est ça que tu voulais faire quand t'étais petite.
Non, je voulais être patineuse.
Ah ouais?
Oui.
Et comment t'es passée du patin au flingue?
Je sais pas. Ça s'est fait comme ça.
Allez, bonne journée.
Merci.
Je te crois pas.
Et vos crises d'angoisse?
Vous savez, moi je pense pas. C'est comme s'il y avait un désert dans ma tête. Je suis pas domesticable.
Personne cherche à te domestiquer.
J'entends le vent souffler et j'avance. L'odeur de mort. On a beau se savonner, ça part pas.
Moi, quand je rentre le soir, je mets des sapes et je compte jusqu'à 60. Comme ça, je fais pas rentrer toute cette merde chez moi.
Comment ça se fait?
Entre ton cuerpo y el mío. Hay universos que debes ver.
Yo hago lo que quiero.
No, justo eso.
Es que no puedes hacer lo que quieres.
Emma, te voy para la guerra. Y puede que nunca más volvamos a ver tu hermoso cuerpo, así que te vamos a despedir ahora.
Es la vida, y yo te bailo la vida.
Je la connais depuis la sixième. On est comme deux aimants, elle et moi.
Rien de ce mec. Et là, il y avait mes piranhas. J'ai étudié le langage des piranhas.
Par exemple, quand ils frottent leur mâchoire comme ça, là, ça
veut dire j'ai envie de faire l'amour.
Je crois qu'il m'a reconnu.
Sans son passé développé.
Elle a le kiffé. J'ai
jamais vu une activité synaptique pareille.
Allô?
Qu'est-ce que vous faites, Daniel?
Il parle.
Cette semaine, dans vos salles, les atermoiements de policiers devant reconduire dans une Kangoo et à la frontière un demandeur d'asile tadjik, c'est Police d'Anne Fontaine. Emma, le dernier formidable film de Pablo Larraín qui tourne sa caméra vers la jeune génération chilienne, celle née au début de ce siècle, comment elle réinvente la sexualité, la famille, le couple et partant la politique, le tout sur fond de reggaeton, cette danse quasiment orgasmique, le tout comme toujours chez Pablo Larraín, porté par une mise en scène extrêmement inventive et une jeune comédienne tout à fait éblouissante, Mariana Di Girolamo. Il y a aussi Poisson sexe d'Olivier Babinet, également sorti ce mercredi. On y retrouve Gustave Kervern, le co-réalisateur d'Effacer l'historique, pardon, et pas l'hystérique, et la trop sous-employée par le cinéma français India Air dans une comédie romantique étrange, dépressive, sur fond de disparition des espèces animales. On est juste avant l'apocalypse de Jonathan Nociter et une disparition du désir aussi dans ce film, un film étrange et doux qu'on vous recommande absolument, comme également cette découverte, une vraie rareté, La jeune fille à l'écho du cinéaste lituanien Arūnas Zebriūnas, un film de 1964 sur la dernière journée d'une petite fille intrépide au bord de la mer. Vous nous en dites deux mots, Sophie-Catherine Gallet, vous qui êtes la grande spécialiste du cinéma balte.
Et oui, effectivement, je peux me vanter de connaître un petit peu ce cinéma de ces contrées-là. Et effectivement, ce film est un très beau film, donc ancré dans la nature lituanienne, qui narre la rencontre entre deux enfants, la fin d'un été au bord de la mer. Entre baignade et jeu, leur amitié donc va se nouer comme ça autour du partage d'un secret. La petite fille Vika va montrer à son nouvel ami l'écho que peut produire la montagne. Ce récit qui est tout tissé comme ça sous la forme d'un conte où Vika serait une petite fée mutine qui convoque la nature avec son corps, un instrument de musique qui ne la quitte jamais, est emblématique en fait du cinéma de ces années, des années 60, dans ces contrées baltes, un cinéma poétique ancré dans la nature, dans la forêt, la mer, le vent, autant d'éléments fondateurs de l'identité collective de ces pays, et en particulier Lettonie et Lituanie.
Merci Sophie-Catherine Gallet. Il faut qu'on avance. La jeune fille à l'écho d'Aruna Zebriona, c'est à découvrir donc en salle depuis mercredi. Et puis j'ai oublié un film quand même, un des films les plus passionnants de cette semaine. Eh bien non, j'ai pas oublié. C'est Énorme de Sophie Le Tourneur, une comédie burlesque sur la grossesse, sur les rapports de domination dans le couple, comment tout ça est en train de se rééquilibrer entre hommes et femmes, et qu'on invente quelque chose de tout à fait nouveau qui va jusqu'au monstre, jusqu'à la folie. Sophie Le Tourneur continue à avoir cette invention formelle assez sidérante, l'air de rien, puisqu'elle fait alterner parfois plan à plan des images documentaires. On y voit des vraies sages-femmes dans ce film, un véritable accouchement qu'elle alterne, donc plan à plan, avec des images de fiction. Pourquoi cette écriture singulière? C'est ce que j'ai demandé à Sophie Le Tourneur.
Je trouve des dispositifs de mise en scène, on va dire ça comme ça, et d'écriture d'ailleurs. Je me laisse un peu porter par les rencontres, pour nourrir mon sujet, pour que les choses aussi se déplacent de moi, quoi, parce que ça part souvent de moi, quand même. C'est comme si je m'intéressais plus à moi, quoi, finalement. Et c'est une richesse dingue de rencontrer des gens, par exemple, ces sages-femmes, ces musiciens, ces docteurs, ces gynécos, ces... Moi, ça m'apporte énormément humainement, quoi. Et chaque personne que je choisis, c'est pas du tout de dire, bah voilà, je vais prendre une sage-femme. Ah, c'est une bonne idée de prendre une sage-femme, je vais prendre n'importe laquelle. Non, pas du tout, en fait. C'est un long casting pendant un an, et toutes les personnes que j'ai filmées, je trouve qu'elles ont quelque chose, en plus de leur métier, quoi. Mais il y a quelque chose qui m'inspire, que je trouve poétique, que je trouve drôle, que je trouve bouleversant, que je trouve... bizarre.
La question du corps des femmes est une question très importante depuis longtemps, mais beaucoup actuellement, et pas uniquement quand elles sont objectivées comme une femme enceinte dont le ventre semble appartenir à tout le monde. Est-ce que c'est ça aussi que vous avez voulu raconter, et est-ce que vous avez eu le sentiment de faire un film politique?
Oui, je voulais poser des questions. Voilà, je voulais poser des questions que je me pose, et c'est bien que, enfin, il faut que le monde se pose de plus en plus de questions, parce que c'est très complexe, quoi. Tout est très complexe, surtout autour de la maternité, de la féminité, de la masculinité aussi, parce que le film parle des hommes aussi, quand même. Et en fait, quand j'ai commencé à montrer le film et puis les réactions, etc., j'ai eu des réponses dans le sens où je me suis rendu compte que les gens étaient un peu choqués, quoi, par certains trucs. Enfin, alors que moi, tout me semblait naturel. Enfin, toutes ces questions me semblent naturelles. Et moi, je suis pas quelqu'un, j'ai pas honte, en fait. Je suis pas dégoûtée par des choses et tout ça. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines personnes qui c'était vraiment compliqué pour eux, les sécrétions, le placenta, le sang utérin. Tout ça, puis c'est vrai, quand on y réfléchit, ça veut dire beaucoup de choses, quoi, sur nos sociétés, sur la peur du sexe féminin, ouais. Puis j'ai lu plein de trucs et tout, mais après coup, en fait, et je me disais, bah ouais, en fait, c'est ça que je dis dans mon film, quoi. Mais pareil, c'était pas une volonté, je me suis pas dit, tiens, je vais dire ça, et du coup, je vais écrire ça, C'est après coup que je me rends compte un peu du sous-texte et de choses qui pour moi sont naturelles, mais en fait, c'est bien d'en parler, quoi.
Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, Madame Girard.
C'est vrai, ça allait.
Comment ça va?
Bof. Je me sens un peu ballonnée tout le temps, et puis j'ai très mal au sein, je comprends pas ce que j'ai.
Allez, on va passer à l'examen et puis on va vérifier tout ça. D'accord? Ah oui, il y a une grosseur là.
Une tumeur?
Ça arrive jusqu'au nombril. On va regarder ce qui se passe là tout de suite, oui. Je vais vous mettre un peu de gel sur le ventre. C'est un peu froid, hein, d'accord? Ah, bah, je comprends. Bah, c'est un bébé.
Un bébé cancer?
Mais non, c'est un bébé normal. Bon, vous voyez la tête, là? Regardez.
Vous êtes sûr que c'est mon ventre que vous filmez, là?
Regardez, il bouge.
C'est pas des images d'archives?
Ça, c'est votre ventre, hein. Les images qui sont là, c'est les images du ventre. Quand même mieux ça qu'un cancer, non?
énorme de Sophie Le Tourneur est sur tous les bons écrans depuis mercredi dernier. Que de bonnes raisons cette semaine de retourner en salle. Mais en attendant, il est temps de partir sur la route comme Jonathan Nocitaire en Italie.
Signorina, la mia compagnia vi ringrazia.
Andiamo!
Salite!
Coraggio, coraggio!
Grazie! Molto gentile, grazie. Permettermi di Namur, artista, Valeria del Sole, artista, e che con mio fidanzato.
No, no, si metta un po' più là, un po' più là. È lei qui accanto a me.
Ma guarda questo.
Grazie,
partenza!
Je ne sais pas si vous avez pris une carriole, Sophie-Catherine Gallet, mais vous nous revenez de Bologne, où s'est tenue la 34e édition d'une manifestation essentielle qui n'a jamais aussi bien porté son nom, il Cinema Ritrovato, le cinéma retrouvé, qui, avant la Mostra de Venise, dont on parlera ici la semaine prochaine, a permis aux cinéphiles italiens et du monde entier, comme vous, de redécouvrir le plaisir de la projection sur grand écran de près de 400 films restaurés de l'histoire du cinéma. Une année héroïque, selon son directeur, celui aussi de la Cineteca de Bologne, Gianluca Farinelli, dont on a parlé tout à l'heure avec Jonathan Nocitaire, pour une manifestation qui se tient d'habitude fin juin. On a pu y voir, entre autres, comme toujours dans ce festival, des films réalisés il y a 100 ans, en 1920. Donc, et puis, hein, 1920, c'est aussi l'année de naissance de Federico Fellini. Et pour fêter son centenaire, a été projeté en plein air sur l'écran géant de la Piazza Maggiore, son tout premier film, co-réalisé en 1950 avec Alberto Lattuada, Les Feux du Musical, Luci del Varietà, dans le texte dont nous venons d'entendre précisément un extrait, Sophie-Catherine Gallet.
Et oui, me voici donc de retour de Bologne, du Cinema Ritrovato, donc le cinéma retrouvé, où effectivement l'une de mes premières découvertes a été Les Feux du Musical, qui est donc le premier film de Fellini, co-réalisé donc avec Lattuada, dont c'est le 8e. Et pourtant, tous les éléments moteurs du film semblent déjà totalement appartenir à l'univers fellinien. Une troupe de théâtre ambulant, qui exécute des numéros de cirque, de magie ou de danse, croise la route de Liliana, fausse ingénue, merveilleusement interprétée par Carla Del Poggia. Saltimbanques sans le sou sur les routes, joie débridée des forains qui chantent, se querellent, se rabibochent. Les Feux du Musical est cependant traversé par une grande mélancolie, en partie incarnée par le personnage de Giulietta Masina, au visage tristement émerveillé et docile, qui convoque aussitôt son rôle à venir dans la strade. L'onirisme et le surréel sont aussi déjà là, et contribuent à la mise en scène de ces peines déguisées en joie, comme lorsque le héros croit entendre, par-dessus le crissement d'un tramway qui troue la nuit romaine, les applaudissements d'un public que sans fin il attend. À l'aune de ses rêves, qui transfigurent le réel, pourrait également se décrire l'expérience de ce festival. Car se retrouver à Bologne, en Italie, c'est bien un rêve. Dans cette ville d'arcade, construite de telle façon qu'on pourrait ne jamais sortir de la quiétude de ses arches, tout comme de la quiétude des salles de cinéma, parfois improvisées dans des théâtres aux pavements de pierre sur lesquels les pas résonnent et incitent à marcher sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller ceux qui rêvent. C'est un rêve de flâner au son des carillons d'église cachés au coin des rues, dans lesquels se repaître de l'humidité légère avant de retourner tambour battant sous le soleil. Un rêve de sentir les effluves d'un café ristretto, d'entendre les accents délicieusement langoureux d'une ville cinématographique avant de s'engouffrer soi-même dans d'autres rêves imaginés par d'autres. Le cinéma noir de la fin des années 30, dans toute sa splendeur avec Let Us Live de John Bram, film à l'humanisme défait, situé dans une Amérique sombre et enneigée, ou bien dans le quasi-western italien loufoque avec Vincenzo Cavalieri de 1964, habité par un sarcasme et une réflexion sur la guerre très inattendue, ou encore dans les trésors retrouvés de cinéastes femmes en Union soviétique, oublié de l'histoire du cinéma, comme Ujmuri de Nuzza Gogoberidze, conte mêlant parfaitement la doctrine du réalisme socialiste à une image vivante et charnelle, en particulier lors d'une scène où un buffle s'enfonce dans les sables mouvants. La boue, l'épuisement de l'animal, le souffle chaud de ses naseaux deviennent une matière organique extraordinairement concrète grâce à un montage rythmé de plans extrêmement rapprochés. Zigzag comme entre les passés en couleur et en noir et blanc, détour par la Pinacoteca de Bologne, le rêve pourrait sembler infini. Mais de cet amas de songes surgit soudain la tragédie avec Marilyn Monroe, incarnation du rêve et du cauchemar, hollywoodien celui-ci, dans les désaccès de John Huston.
You and your God's country! Freedom! I pity you! You're three!
cri exutoire et prophétique puisque sa vie finira peu après ce très beau film. Elle y hurle son dégoût des hommes hypocrites et cruels qui l'entourent. Ce cri glaçant s'ancre entre la fiction et le réel, quand au-delà de son personnage, c'est sa propre vérité qui éclate dans l'immensité du désert, où filmée en plan large et en noir et blanc, elle devient une silhouette lointaine, presque indissociable du ciel et de la terre, et où sa rage emplit l'image et jaillit sur le spectateur, muet, comme le désert qui ne lui renvoie aucun écho. Le regard perdu entre fiction et réel, songe des souffrances, se rappelle aussi à nous la tragédie vécue ici sur cette terre, il y a encore si peu. Au rêve se mêle alors l'urgence. Les titres de journaux rappellent qu'à n'importe quel moment, au gré d'un rebond d'épidémie, de nouvelles lois imprévisibles, les frontières pourraient de nouveau fermer, et le rêve s'achever brutalement. Mais alors, quand surgit ce sourire sincère d'une femme filmée à son insu dans le documentaire soviétique Booba, à la mise en scène pourtant millimétrée, l'urgence fait place au plaisir, celui de savourer chaque image découverte, chaque minute donnée, avec l'acuité d'un regard aux aguets. Déguster les Comizi d'Amore et de Pasolini, enquête vérité sur la sexualité et la vision de l'amour des Italiens dans les années 60, se perdre dans la Rome d'Acatone, traverser Paris avec Jean Gabin, et vivre aux côtés de ces récits non plus un rêve, mais son croisement avec le réel. Vivre dans l'instant, éphémère, absolu, comme celui que découvre Eddie Lamar dans Extase, de Gustave Machatti, film de 1933 et le premier à mettre en scène l'orgasme féminin. Et nourri de ces images passées, découvrir peut-être pour la première fois avec autant de précision la fragilité et le bonheur du présent, tels que le vivent également les personnages de Luci del Varietà au cours d'une de leurs soirées débridées. Tabaco!
Ciao. Commendatore, per piacere. Commendatore? Un momento,
commendatore. E basta voi due, su Patrizia, balla con me.
Merci Sophie-Catherine Gallet. Et le bonheur, évidemment, c'est que la plupart des films présentés à Bologne, eh bien, on va les retrouver bientôt en salle, en DVD, en Blu-ray et un peu partout ailleurs. Plan large à Deauville, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son à Deauville, Tanguy Le Courneau et Georges Thau et Jean-Frédéric à Paris. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet, la reine des moules marinières, et réalisée par Laurent Polleret. Merci aux équipes de l'hôtel Barrière Le Normandie Deauville pour leur accueil et à Raja Boudni, Alain Fauché et Franck Malabry de Radio France pour leur organisation toujours impeccable. La semaine prochaine, dans Plan Large, il sera question d'adolescence au cinéma. Nous serons avec le cinéaste Sébastien Lifshitz pour son film formidable Adolescente, et puis une historienne du cinéma et du teen movie, Adrienne Boutan. Mathieu Macheret, lui, qui est à Venise en ce moment, l'heureux homme, nous racontera ce festival très particulier, lui aussi cette année, la Mostra.